Ma fille est présentement en Ukraine. Justement, ça, c'est une entrevue qu'elle a accordée cette semaine ou l'autre jour. On me dit ce matin qu'il y a un article dans le Journal de Montréal. C'est Jean-Philippe qui me racontait ça ce matin, une entrevue avec eux, où Joël a pu justement encore une fois donner une entrevue pour leur expérience en Ukraine. Eux autres partaient et leur but était d'adopter 4 à 5 enfants. Ça fait beaucoup, c'est toute une tribu. Mais finalement, les 4 et 5 enfants qu'ils avaient, c'est une fratrie de 4 à 5 enfants, et ils ont été placés dans une maison d'accueil en Ukraine, donc ils ne pouvaient pas avoir les enfants. Mais on leur a offert 2 autres enfants, et sont vraiment tombés en amour avec eux. Une belle petite fille de 3 ans, et puis un jeune garçon de 12 ans. Et la raison pour laquelle on vous parle de ça, c'est que premièrement, quelques-uns ici, vous priez pour leur expérience. Vous êtes nombreux à prier pour eux. La raison pour laquelle on vous en parle, c'est que on a décidé depuis un an de réserver le premier dimanche du mois de novembre chaque année pour le consacrer aux orphelins, au soutien aux orphelins. On veut prier pour le ministère des orphelins. Maud et son équipe ont monté, ils sont vraiment une belle équipe qui travaille assez fort pour essayer de monter un ministère pour nous permettre à soutenir, aider, encourager les orphelins. On n'est pas tout appelé à adopter. Mais certainement, on est appelé à aider, à faire ce qu'on peut. Vous savez, on le sait, les chiffres sont nombreux. Il y a plusieurs millions d'enfants qui sont orphelins dans le monde. Juste ma fille, présentement avec Joël, qui sont en Ukraine. Si on parle juste de l'Ukraine, un seul pays, il y a au-delà de 100 000 orphelins. Et 10% seulement des orphelins sont orphelins parce que les parents sont décédés. La plupart, 90%, c'est simplement parce que les parents les ont soit abandonnés ou sont en prison ou ils ont d'autres problèmes. Le hic dans ça, vous savez qu'il y a 2000 mères qui abandonnent leurs enfants à l'hôpital chaque année en Ukraine. Le hic dans ça, c'est qu'à l'âge de 15 ans, 15 à 16 ans, ils sont expulsés à l'extérieur de l'orphelinat. Et puis là, c'est le système D, débrouille-toi. C'est ce qui explique que plus de 10% de ceux qui sont expulsés des orphelinats, plus de 10% vont se suicider avant qu'ils aient l'âge de 18 ans, donc en dedans de 2 ans qu'ils sont sortis de l'orphelinat. Et 60% des filles relâchées ou laissées, expulsées des orphelinats à l'âge de 16 ans vont aboutir finalement 60% dans la prostitution. Et 70% des garçons vont aboutir finalement dans la criminalité. On peut faire quelque chose. C'est notre petite part comme enfants de Dieu. Nous voulons faire quelque chose certainement pour les soutenir, prier pour eux, les aider. On veut s'encourager mutuellement et voir ce qu'on peut faire. Il y a toutes sortes d'idées, il y a toutes sortes de manières qu'on peut aider. Il y a des églises qui vont même carrément, une fois par année, vont aller visiter des orphelinats. Il y a une église dont j'ai entendu parler, ils ont organisé une croisière avec l'église. Ils sont partis 50 membres de l'église. Ils sont allés faire une croisière en Ukraine. Et au lieu de faire un voyage touristique, les 50 membres sont allés visiter plusieurs orphelinats. Puis finalement, pour visiter 1000 orphelins, ils ont donné des centaines de bibles, apporté du linge, parce que vous savez que le gouvernement là-bas ne donne que 10$ par orphelinat pour habiller des enfants. Donc, très peu d'argent, pas beaucoup d'argent. Donc, on peut apporter du linge et on peut les soutenir. Il y a des églises là-bas, sur place. D'ailleurs, Joël est allé, lorsqu'il est allé la dernière fois, il y a un an, est allé dîner avec un des pasteurs de l'église là-bas en Ukraine. Et l'église va aller visiter, justement, les orphelinats, vont jouer avec les enfants. Et parce que tu as une fenêtre, hein, après 15 ans, les enfants sont relâchés, sont comme système D, sont dans la rue. Et donc, tu as cette fenêtre-là où tu peux leur montrer de l'amour et leur montrer vraiment l'amour de Jésus-Christ. Il y a une autre église, c'est une méga church, c'est une grande église aux États-Unis. Ils ont carrément lancé le défi. Maintenant, ce sont plusieurs milliers de personnes. On veut pas mettre ce genre de pression-là sur nous. On n'est pas tous appelés à faire ça. Mais il y a une méga church aux États-Unis qui ont lancé le défi de trouver 500 familles dans leur église qui allaient adopter un enfant. Donc, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens qu'on peut faire pour soutenir. On peut aider de toutes sortes de manières. Les chrétiens ont toujours eu à cœur, depuis la naissance de l'Église, et même dans l'Ancien Testament, on voyait ça, c'est chez les Juifs, parce qu'on voit une trentaine de places où le mot orphelin est employé. Et les chrétiens, depuis la naissance de l'Église, ils ont toujours eu à cœur d'aider les personnes démunies, les personnes en difficulté. parce qu'il s'inspire, et l'histoire de l'Église nous rapporte qu'il s'inspirait de la compassion et de l'amour du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Prenons le psaume 68, par exemple, où Dieu est appelé le Père des orphelins. Ça dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. » Et depuis vraiment la naissance de l'Église dans Actes 2, les chrétiens, saisis par l'amour et la compassion de Dieu pour eux, ont commencé à vraiment soutenir les orphelins. Et ça s'est organisé assez vite. Nous lisons, par exemple, dans 1 Jean 4, ça dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et verset 10 dit, « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. » Inspirés par l'amour de Dieu, les chrétiens ont toujours vraiment eu à cœur d'aider les démunis, d'aider les veuves et d'aider les orphelins. À l'époque du Nouveau Testament, la compassion des chrétiens se démarquait vraiment. Ça allait à l'encontre, ça allait contre-courant des valeurs et de la culture de l'époque. Vraiment, les chrétiens marchaient à contre-courant. Un père de l'Église qui s'appelle Tertullien nous informe que les premiers chrétiens avaient même un fonds commun où on donnait de l'argent sur une base volontaire afin d'aider les veuves, aider les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes qui étaient en prison en raison de leur foi. C'était la persécution des chrétiens à l'époque. Et ils soutenaient aussi des enseignants lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Ils payaient aussi pour l'enterrement des personnes démunies. Ils payaient parfois pour délivrer des esclaves. Ils soutenaient financièrement les veuves. Les veuves étaient nombreuses à l'époque d'Antiquité. Par exemple, on raconte que 40% des femmes entre 40 et 50 ans étaient veuves. Et 30% de toutes les femmes, quel que soit leur âge, étaient veuves. Et les chrétiens ont vraiment révolutionné la mentalité avec une compassion qui s'inspirait de Jésus-Christ. La compassion et la charité chrétienne se distinguaient, étaient différentes du monde gréco-romain. Vraiment différentes, de quatre manières. Laissez-moi vous les expliquer. Premièrement, les chrétiens pratiquaient ce qu'on appelle le caritas, alors que le monde gréco-romain pratiquait le liberalitas. Et c'était vraiment différent. Le caritas, c'était vraiment de venir en aide aux gens qui étaient dans le besoin, mais sans rien espérer en retour. Alors que les Romains, pendant des siècles, pratiquaient le liberalitas. Et l'idée, c'était que tu aidais, mais tu aidais dans le but, t'espérais que tu aies des faveurs en retour ou que la personne, un jour, te rende cette faveur-là. Il y avait un but. Deuxièmement, la générosité des chrétiens était motivée par l'amour, et c'était tout, juste par l'amour. Parmi toutes les religions qui existaient à Rome, il y en avait vraiment plusieurs, aucune n'était motivée de faire de la générosité, de donner, d'être généreux envers les autres, par amour pour son prochain. Dans les religions à Rome, les individus étaient simplement des spectateurs lors des temples. Ils allaient au temple, dans leur temple, devant leurs idoles, ils offraient des sacrifices, tout ça. Et ils étaient des spectateurs. Ils n'étaient pas challengés, vraiment, là, et confrontés, et exhortés à agir par amour des uns envers les autres. L'historien Christopher Dawson parle de l'Église primitive, puis il explique comment les premiers chrétiens, déjà, avaient une liste qu'on appelle le matriculum. C'était vraiment une liste. Chaque église avait cette liste-là et où ils mettaient des gens qu'ils soutenaient financièrement. Ils avaient vraiment une liste à jour de personnes qui avaient besoin d'aide. Ils gardaient cette liste-là à jour-là. Chaque église, c'était comme ça. Les premiers chrétiens réservaient d'importantes sommes pour l'entraide, pour soutenir les orphelins et les veuves. Alors, la compassion de la charité chrétienne se distinguait Elle se distinguait de la générosité des autres de l'époque déjà, au cours des premiers siècles. Non seulement ce qu'ils donnaient en espérant rien recevoir en retour, non seulement qu'ils étaient motivés par l'amour, mais non seulement ça, ils aidaient tout le monde. Donc, indépendamment de ton statut social, indépendamment de qui tu étais ou ta race, ils aidaient tout le monde. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'on découvre un document. C'est un document qui existait. Ça a été écrit, on pense, à peu près autour de l'an 80 de notre ère jusqu'à 110. Et c'est un document qui s'appelle le Didaké. Le Didaké, c'est un document dans lequel on exprimait les valeurs, les croyances, le credo, si on veut, mais aussi on exhortait les chrétiens. Et dans le Didaké, ce document-là, qui a déjà été écrit, on parle de quelques années après Jésus-Christ, pour l'Église primitive, c'était eux autres, c'est leur document d'Église primitive. Dans ce document chrétien-là, on exhorte les gens à donner et à soutenir des personnes démunies, mais d'aider tout le monde, quelle que soit la race. C'était vraiment révolutionnaire. On a découvert un autre document par un Hermas, un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le pasteur », ou dans lequel lui aussi va exhorter les chrétiens à aider tout le monde, indépendamment de l'arrière-plan ou de la race de la personne. Et ça, c'était révolutionnaire. Une autre façon aussi que la compassion et l'amour des chrétiens se distinguaient des valeurs de l'époque, c'était que la charité chrétienne était sur une base volontaire. Pour les gens d'Antiquité, donner volontairement aux démunis, aux veuves, et soutenir les orphelins, c'était carrément ridicule. C'était même pas une vertu. On trouvait ça stupide. Pourquoi tu donnerais à quelqu'un et que cette personne-là ne te donnera absolument rien en retour? Cette conception-là de générosité, ça allait vraiment contre les valeurs de l'époque. Il y avait rien à gagner d'aider les autres. Alors pourquoi le faire? Pourquoi dépenser de l'argent ou faire des efforts pour aider les autres quand tu sais que ça va te donner absolument rien en retour? Mais voyez-vous, la différence, c'est que pour les chrétiens valorisaient l'être humain. Ils disaient que chaque être humain était cher et important et précieux aux yeux de Dieu. Et que Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, a été offert pour tout le monde. Donc, les chrétiens valorisaient l'être humain parce que pour Dieu, chaque être humain avait une valeur. Vous voyez comment la vision du monde va changer lorsque tu regardes à travers la lentille des Écritures saintes. Et cette compassion des chrétiens s'inspirait de l'amour et de la compassion de Jésus-Christ. Lorsqu'ils voyaient des passages, les premiers chrétiens ont été touchés, saisis par l'amour et la compassion de Jésus. On pense à des passages qui ont marqué les premiers chrétiens et qui nous marquent encore, qui nous inspirent. Nous lisons par exemple, lorsque Jésus est sorti de la barque, il vit une grande foule et nous lisons qu'il fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Cette compassion-là de Jésus-Christ a inspiré les chrétiens à marcher contre-courant, même à l'époque. Particulièrement envers les orphelins. Les chrétiens sauvaient les enfants qui étaient abandonnés déjà au premier siècle dans l'Empire romain. Les chrétiens les emmenaient dans leur maison, dans leur foyer, en prenaient soin, les élevaient, les éduquaient dans la parole de Dieu. On incitait les chrétiens à prendre soin non seulement des veuves, mais des malades, des handicapés, des démunis et les orphelins. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'espérance de vie, ça a duré ça pendant plusieurs années. L'espérance de vie était de 30 ans. Oui, il y en avait quelques-uns qui vieillissaient, qui allaient plus loin, évidemment. Mais l'espérance de vie à l'époque, c'était 30 ans. Donc, il y avait plusieurs orphelins qui se retrouvaient là. Donc, les chrétiens se sont penchés pour voir comment on peut venir en aide aux orphelins. Il n'y avait rien d'organisé. L'un des pères de l'Église, qui s'appelle Justin Martyr, nous explique que pendant le service de l'Église, les chrétiens prenaient carrément une offrande spécialement pour venir en aide aux orphelins. Ça faisait partie, ça, des programmes de l'Église. Un autre que je vous ai mentionné tantôt, Tertullien, il nous informe que l'aide aux orphelins s'est répandue même dans les églises, c'est allé vite, ça s'est même rendu jusque dans les églises de l'Afrique du Nord. Donc, cette aide-là de pouvoir aider les orphelins, ça s'est répandu dans plusieurs églises. Et c'est vraiment intéressant parce que lorsque tu parcours l'histoire de l'Église, tu remarques qu'on a des évidences qu'à travers le 1er siècle, 2e siècle, 5e, 4e siècle, 7e, 6e siècle, 8e siècle, il y a toujours eu des programmes pour aider les orphelins. L'Église a toujours eu à cœur d'aider ceux qui étaient les démunis, particulièrement les orphelins. D'ailleurs, ce qu'on apprend, c'est que lorsqu'en 300 quelques, l'Église est devenu comme c'est légalisé, donc on a cessé de persécuter les chrétiens, c'est devenu légal. Tout de suite, les chrétiens ont commencé à bâtir des orphelinats. Et pendant des années, on a bâti des orphelinats, on a multiplié les orphelinats. Mais c'est un mouvement, ça, chrétien, évangélique. Et certains des orphelinats pouvaient venir en aide à plus de 800 enfants. Et on pense même, ça s'est répandu jusqu'à aujourd'hui, on pense même à George Muller, il n'est pas tellement loin. Lorsque George Muller s'est converti, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a commencé un orphelinat, parce qu'il avait à cœur de venir en aide aux jeunes filles, les petites filles qui étaient abandonnées. Et il a commencé un orphelinat lui-même à plus de 30 filles, 30 enfants. Et ça s'est répandu si bien qu'en l'espace de 60 ans, ils étaient rendus à s'occuper de 8000 enfants. Et ça montre vraiment que ça a toujours été une valeur pour les enfants de Dieu. Et on attribue vraiment ce fruit, cette multiplication-là, à ces convictions qu'ils avaient et aux prières qu'ils faisaient pour que Dieu puisse bénir ce ministère-là qu'ils avaient à l'endroit des orphelins. Par exemple, laissez-moi juste vous donner une idée. Il y a bien des gens qui vont penser juste aux marins et aux marraines, aux parrains puis aux marraines. Nous, on associe ça à l'Église catholique, mais des centaines d'années, même avant que l'Église catholique va naître, avant l'Église catholique, ça n'existait même pas, dans les premières années. Déjà, on va et la raison était bien simple, les chrétiens vont commencer à bâtir un système de parrainage. Et la raison était bien simple, l'espérance de vie était de 30 ans, alors on savait que beaucoup d'enfants tomberaient orphelins. Donc, on a commencé à choisir des gens, des adultes qui deviendraient un parrain, une marraine, et qui prendraient soin des enfants et s'occuperaient d'eux, les nourriraient s'en occuperaient et aussi enseigneraient la parole de Dieu pour en faire, on l'espère, des disciples. Maintenant, les Grecs et les Romains n'avaient jamais mis un tel système sur pied, en pratique. C'était pas vraiment l'une de leurs valeurs. Au contraire, même, on pratiquait à l'époque l'infanticide. On laissait mourir les enfants. Une étude parue dans le Journal of Archaeological Science montre que l'infanticide était une pratique courante à l'époque. On croyait que c'était même le moyen le plus efficace et le moins dangereux pour les mères lorsqu'elles voulaient réduire le nombre d'enfants dans une famille. On tuait carrément les enfants. On les jetait par-dessus bord d'un bateau, où on les noyait, où on carrément, parfois c'était violent, on coupait la gorge. Mais ça, c'était ce qui se passait, là, l'infanticide. Mais les croyants, les chrétiens, croyaient que chaque être humain était précieux aux yeux de Dieu. Et ça changeait complètement l'attitude et la perspective. Dans le document dont je vous ai parlé, là, de Didaquet, encore une fois, il y a une déclaration où c'est écrit clair, c'est écrit, tu ne commettras pas l'infanticide. Et vous savez, lorsqu'on met des lois, on met des règles, habituellement, c'est parce qu'on les viole. Et pourquoi le Didaquet a le souci, pas un gros document, mais ils ont le souci de l'écrire comme ça, pour avertir et informer et exhorter tous les chrétiens, tu ne commettras pas d'infanticide. Parce que c'était une pratique courante dans l'Antiquité. Les chrétiens disaient que l'infanticide, c'était un meurtre. Et c'est eux, finalement, avec beaucoup d'efforts, qui ont illégalisé l'infanticide. Maintenant, les premiers chrétiens ont sauvé des milliers d'enfants qui n'étaient pas désirés. Et tout ça parce qu'ils s'inspiraient de l'exemple et de l'amour de Jésus-Christ. Le message de l'Évangile nous incite à venir en aide aux orphelins, à les soutenir et prier pour eux, les encourager et de donner. Ça, c'est le message, c'est propre au message de l'Évangile. C'est ça que Dieu a fait. Jésus lui-même a dit à ses disciples, dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Le Seigneur lui-même a ce cœur-là d'intervenir et de ne pas nous laisser orphelins. Jésus ne nous a pas laissés orphelins, il est venu nous chercher. Et nous, on fait maintenant partie, on était adoptés, on fait maintenant partie de la famille de Dieu. Alors, on veut prendre soin des gens. On veut les soutenir, faire notre part pour encourager et soutenir tout ce ministère-là des orphelins. Un passage que j'aimerais vous lire dans Jacques 1, 27, qui dit ceci. Et la lettre de Jacques est particulière. Il faut comprendre le contexte. Mais laissez-moi vous lire ce verset qui se trouve dans Jacques 1, 27, qui dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Vous voyez, il y avait quelques personnes qui étaient sous l'impression là, que la foi, c'était, ils divorçaient finalement la foi avec ta vie pratique. Et Jacques va écrire sa lettre dans le but de corriger cette notion-là que l'on croyait que c'était pas vraiment important la vie que tu menais. Tu pouvais faire pas mal ce que tu voulais longtemps que tu croyais. Et Jacques est en train de corriger ça. C'est Jacques qui va dire la foi sans les œuvres, c'est mort. Et ça, que tu as été touché et saisi par l'Évangile, que tu as placé ta foi dans l'Évangile, le message de l'Évangile va avoir un impact et doit avoir un impact dans ta vie pratique. Et c'est la raison pour laquelle ce que Jacques est en train de dire, ça va avoir un impact dans deux domaines. Premièrement, ta vie de sainteté. La religion pure consiste à quoi? Bien, à ne pas se laisser souiller par le monde. En d'autres mots, que quelqu'un ait cru à l'Évangile, ça va paraître dans son quotidien, dans sa vie. Il va abandonner tranquillement. Il sera pas parfait, mais il va travailler pour abandonner le péché. Il va haïr le péché. Il va détester le péché. Lorsque le péché se pointe et lorsque la tentation se lève et veut le séduire, tu sautes sur le péché, tu l'attaques, tu veux pas le laisser entrer dans ta vie. Et ça, c'est l'une des marques, qui démontre la réalité de ta conversion, de tes convictions que l'Évangile t'a touché. Mais la deuxième évidence de ça, que l'Évangile t'a saisi, t'a touché, a changé ton cœur puis ta vie, c'est que tu vas avoir à cœur d'aider ceux qui sont dans le besoin et ceux qui souffrent. Finalement, les orphelins et les veuves ici deviennent un type de tous ceux qui sont dans le besoin, dans le fond, tous ceux qui souffrent, qui sont affligés. C'est que tu vas chercher à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment le message de Jacques 1, 27. Une vie sainte par la haine du péché et une vie qui est traduite par un cœur qui est compatissant, qui vient en aide à ceux qui souffrent. Alors, notre foi va chercher à imiter notre Père céleste parce que c'est propre au caractère de Dieu. Dieu est amour et la compassion de ceux qui sont dans le besoin. Et on veut imiter notre Père. On veut suivre son exemple. Alors là, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on peut aider? Bien, il y a des façons très pratiques, ici même, à l'Église de Sentier. Maud et son équipe vont venir maintenant. Ils vont nous présenter une belle vision, comment on peut aider. Et on a déjà commencé l'an passé. Et ils vont venir ce matin nous faire une présentation. Alors, j'aimerais les inviter à venir maintenant, Maud et son équipe.
Bonjour. C'est quel piton pour...
À droite.
OK. Donc, c'est nous les responsables du ministère SOS, le soin aux orphelins. Il manque également Amy qui est assise. Nous sommes venus en juin pour vous présenter, dans le fond, le projet Mataba. Maintenant, nous voulons vous faire part des besoins et ce qui reste à faire pour ce projet-là. Donc, le projet Mataba, la signification, c'est le nom du village. Il est un petit peu trop long pour qu'on l'écrive, donc on a mis ça comme ça, court comme ça et simple. Donc, c'est le village natal de notre frère Vincent Siraninani. Donc, c'est au Burundi, ce village-là. Comme vous le savez, notre frère était allé au printemps pour voir les besoins de l'Église et... c'est ça. Excusez, je suis un peu stressée. Donc, l'Église, il y a 400 membres là-bas. Il y a beaucoup de besoins parce qu'il y a eu une guerre civile. Donc, ça a malheureusement détruit les infrastructures. Il y a beaucoup d'orphelins qui sont dans les rues parce que leurs parents sont décédés suite à cette guerre civile-là. Et sont pas éduqués non plus, donc il y a vraiment leurs besoins de base sont même pas répondus. Donc les orphelins qui sont restés dans la communauté Ils ont été pris en charge par les familles de l'Église là-bas. Mais ces familles-là, ils n'ont même pas assez d'argent eux-mêmes pour subvenir à leurs propres besoins. Et ils ont pris en charge, en plus, ces orphelins-là. Donc, Vincent et les responsables de l'Église ont pensé à un projet pour rendre la communauté autonome financièrement, tout en supportant évidemment les orphelins qui sont là et les familles qui en prennent soin. Ma feuille est collée. Donc, nous pensons que notre Église doit participer à ce projet-là parce que c'est un projet que le Seigneur a mis devant nous et répondre au mandat de la justice qui est de rechercher la justice, protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin et défendre la veuve dans Ésaïe 1:17.
Alors, voici comment ça fonctionne. Le projet, c'est un projet sur 5 ans. D'ici 5 ans, nous aimerions que la communauté de Mataba soit entièrement autonome financièrement. Le plus gros projet lié à l'autonomie de cette communauté-là est la construction d'une épicerie coop qui va aider à leur approvisionnement en nourriture et par les profits va aider la communauté. Une autre partie du projet est d'offrir une chèvre à chaque famille qui accueille un orphelin. Comme nous l'avions mentionné à notre dernière présentation, c'est les familles de la communauté qui accueillent les enfants et non pas un orphelinat. Le plan est un plan de parrainage de 37 orphelins de la communauté. On peut remercier le Seigneur car nous avons déjà 29 parrains. Cependant, il reste 8 enfants à parrainer. Alors, comme on peut voir ici, on peut voir la répartition du 30 $ par mois qu'on envoie là-bas. Donc, 15 $ va aller pour les besoins de l'orphelin qu'on parraine, pour son éducation, pour sa nourriture, pour un lunch à l'école et tout ça, et pour ses besoins primaires. 10 $ va aller au développement que je viens de vous parler, c'est-à-dire pour la construction d'une épicerie et pour l'achat de chèvres pour les familles qui prennent soin des orphelins. Bien sûr, une chèvre, pour nous, c'est un petit peu peut-être bizarre, mais pour là-bas, en fait, c'est quelque chose qui pourrait réellement les aider. Et il y a un autre 5 $ qui est pour les autres enfants de la communauté, entre autres pour un lunch à l'école.
J'aimerais ça prendre un petit moment pour vous remercier, remercier les 29 familles de notre Église qui sont engagées à parrainer un enfant. On voulait vous rappeler qu'il nous reste 8 familles à trouver. On a aussi beaucoup de personnes qui ont oublié de venir chercher leurs photos, parce que quand vous parrainez, on vous permet aussi d'avoir la photo de l'enfant. Et cette semaine, on a reçu, c'est Vincent qui me l'a envoyé, une belle lettre de l'Église pour nous remercier pour les montants qu'on a envoyés jusqu'à date. Ça a beaucoup aidé les enfants pour la rentrée scolaire. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, si vous êtes intéressé à parrainer, venez nous voir à la table en arrière, ça va nous faire plaisir. Merci.
Et un petit rappel, il y a plusieurs personnes qui nous ont fait part de leur intention de parrainer, mais on n'a pas reçu tous les chèques post-datés. Donc, vous pouvez venir nous voir, là, c'est une bonne occasion à la fin, comme Maud disait, là, pour ça.
Est-ce que vous diriez si on priait ensemble, tout le monde, on veut... Ça va? Oui? Tiens, je vois... Seigneur notre Dieu, tout d'abord, on aimerait te remercier que l'adoption, ça commence avec toi. C'est toi qui nous as adaptés dans ta famille. Tu nous as sauvés par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et Seigneur, merci d'avoir mis à cœur à Maud et toute son équipe de monter ces beaux ministères pour soutenir les enfants. Et merci aussi aux familles dans l'Église qui déjà soutiennent et font leur part pour aider et soutenir. On te prie déjà pour les 4 ou 5 familles qui veulent adopter ici dans l'Église au cours des prochaines années, que tu puisses ouvrir des portes. On sait comment c'est difficile. Il y a des défis qui attendent chaque famille pour l'adoption. mais on réalise, Seigneur, après, comment ça vaut la peine. Je le vois moi-même, Seigneur, avec mes petits-fils, Noah, Liam, combien sont heureux aujourd'hui, et déjà, autour de la table, ça parle de Dieu. Et ils vont être exposés à l'Évangile. Et Seigneur, il y a des disciples qui sont en train d'être formés, là, des enfants qui vont venir à toi grâce à tout ce ministère d'adoption. Merci pour Maude et tous ceux qui adoptent dans la famille. On te prie pour eux. C'est tout un défi. Et on te prie de les accompagner. Et on te prie pour nous qui pouvons faire quelque chose de plus. On te demande, Seigneur, de vraiment nous guider, nous conduire, et que tu puisses bénir abondamment ce soutien et ce ministère. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci, là.